7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Direction l'Autriche pour commencer, le pays que toute l'Europe observera à la loupe ce week-end.
Et pour cause Nicolas, puisque l'Autriche sera peut-être dimanche soir le premier pays d'Europe avec à sa tête un président issu des rangs de l'extrême droite, Norbert Hofer, 45 ans, candidat du Parti de la Liberté, le FPE, parti islamophobe et eurosceptique. Il est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle le 24 avril dernier, et il part favori pour l'emporter après-demain face à l'indépendant Alexander Van der Bellen, 72 ans, ancien chef de file des écologistes autrichiens. Bertrand Galichet, bonsoir, envoyé spécial de France Inter à Vienne.
Bonsoir.
Alors un duel politique évidemment dominé, Bertrand, par la crise migratoire.
Oui, ici, l'accueil de nouveaux réfugiés n'est plus tellement au centre du débat politique, car les portes de l'Autriche leur sont quasiment fermées. Le vrai sujet, c'est la présence de 90 000 migrants arrivés depuis l'été 2015. Ils représentent 1% de la population autrichienne, qui compte 8,5 millions d'habitants, d'où la crainte, pour certains, d'une intrusion culturelle. Et il y a quelques semaines, des demandeurs d'asile jouaient une pièce de théâtre à l'université de Vienne. La représentation a été brutalement interrompue par des militants identitaires.
Ils sont arrivés en masse sur scène. La plupart venaient de derrière en déroulant une banderole. Et l'un d'eux a crié avec un mégaphone. Il y avait une pancarte barbouillée en rouge qui parlait d'hypocrisie.
Des actions revendiquées par les activistes du mouvement local Génération Identitaire, soutien du candidat populiste Norbert Hofer.
Le but de notre action est une confrontation symbolique. On va trouver quelqu'un qui représente cette idée de multiculturalisme, d'immigration en masse. Et on veut dénoncer eux avec des actions spectaculaires. Alors on occupe des toits ou on dérange des pièces pour créer des attentions de médias, pour faire passer notre opinion, pour faire les titres avec nos slogans, nos idées, pour créer un débat.
Et est-ce qu'il peut y avoir des actions violentes ?
Ah non, pas du tout. Chaque militant dans le mouvement est discipliné. Nous voulons pas du tout utiliser la violence comme une mode politique. Et c'est ça qui est la différence entre nous et les extrêmes de la gauche. Alors, nous sommes pas du tout violents et nous refusons d'utiliser aucune violence dans nos actions.
Est-ce qu'il y a en Autriche des partis ou des formations ou des associations plus à droite que vous ?
Oui, il y a des organisations qui sont plus à droite que nous. Et ils ne nous aiment pas.
Reste à savoir où se situe dans cet échiquier politique le FPE et son candidat Norbert Hofer.
Oui, pas facile hein, justement, tant la sémantique, Bertrand, joue un rôle particulier dans cette campagne présidentielle. Faut vraiment s'arrêter hein, sur les mots. Norbert Hofer, par exemple, ne se revendique pas de l'extrême droite.
Même si sa ligne politique, ses relations et ses déclarations autrefois permettent d'imaginer le contraire, en le présentant comme candidat, le FPE a choisi une personnalité assez lisse. Hier soir, lors du débat télévisé, Norbert Hofer s'est contenté, à propos des demandeurs d'asile, d'un discours assez classique sur le thème « L'Autriche, aimez-la ou quittez-la ».
Quand j'arrive dans un pays, je dois respecter la loi et la constitution, sinon c'est que je me suis trompé de pays.
Un discours rodé, difficile à contredire pour son adversaire Alexander Van der Bellen.
L'Autriche est un état de droit, la loi vaut pour tous, il n'y a aucune tolérance envers la violence.
Mais dès lors qu'il s'agit de parler des frontières, la différence entre les deux candidats saute aux yeux. Norbert Hofer affiche sa méfiance envers l'Europe.
Tant que la frontière extérieure de Schengen ne fonctionne pas dans l'Union européenne, nous sommes obligés, nous les Autrichiens, de sécuriser nos propres frontières.
Et sur ce candidat hein, du FPE, les avis des électeurs autrichiens sont très partagés, Bertrand. Chez un électorat cible, les jeunes.
Et voici pour le comprendre le témoignage d'une étudiante française de l'université de Vienne qui en parle souvent avec ses amis.
Je pense que beaucoup de jeunes vont aller voter au second tour pour éviter la victoire de l'extrême droite.
Qu'est-ce qu'ils vous en disent, vos amis autrichiens ?
Ils étaient vraiment choqués par les résultats déjà et je pense que c'est le problème partout en Europe en ce moment. On en a déjà parlé en cours du fait que le fait d'avoir le droit de vote à 16 ans, ça pouvait favoriser l'extrême droite. C'est surtout une réaction par rapport aux réfugiés. L'extrême droite se sert de ça pour faire peur aux gens, comme en France en ce moment en fait. Étant donné que tous les pays n'ont pas accepté de prendre des réfugiés, évidemment ceux qui les ont accueillis, ils sont débordée.
Cette division de la société autrichienne rend très prudents les partis traditionnels, les sociaux-démocrates et les conservateurs, éliminés, vous le savez, au premier tour. Georg Hoffmann-Ostenhoff, journaliste politique à l'hebdomadaire Profil.
Les deux partis n'ont pas fait officiellement d'appel pour voter pour M. Van der Bellen des Verts, pour vraiment bloquer l'extrême droite.
Pourquoi est-ce que les partis traditionnels n'ont pas appelé à voter pour M. Van der Bellen?
Ils ont eu peur d'aliéner des électeurs, tout ça, c'était pas audacieux.
Et nous verrons donc très vite à qui se rallient les partis traditionnels après le second tour dimanche.
Et second tour que l'on vivra bien sûr en direct de Vienne avec vous, Bertrand Galichet, assisté à la technique de Fabien Gosset. Merci à tous les deux.
Rien à voir, on file maintenant à Barcelone, Michael, pour un salon unique au monde.
Oui, salon international consacré au vêtement le plus vendu au monde, j'ai nommé le jeans. Il s'en vend près de 2 milliards chaque année. Et deux fois par an, eh bien, toute la planète jeans se retrouve au Denim Premier Vision, je le dis à la française, hein, à Barcelone. Rendez-vous entre professionnels, discrets et méfiants, où l'on parle mode et gros sous. Mais vous avez pu y entrer pour nous, Philippe Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il faut bien préciser, hein, Philippe, que micros et caméras sont en général strictement interdits. Exceptionnellement, on vous a autorisé à garder le vôtre et donc à vous balader au milieu de ces industriels du jeans qui fabriquent pour les petites ou les grandes marques.
Et oui, quand on rentre dans ce salon, d'abord la première chose qui frappe, c'est que le jeans, c'est l'uniforme. Que vous soyez hôtesse, serveur, exposant, client, tout le monde a des jeans. Et puis deuxième chose, il y a un objet qui est interdit ici, c'est le ciseau. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le passé, il y a des gens qui découpaient des morceaux de denim pour les copier. Alors, on a le culte du secret et c'est normal parce qu'il faut savoir que ce marché du jeans, ça génère 56 milliards de dollars par an. Et depuis qu'on a commencé, il s'est déjà vendu 120 jeans à travers le monde.
Bon alors, voilà pour le décor. On passe à l'essentiel, Philippe. À quoi vont ressembler nos jeans de demain? Comment seront-ils fabriqués?
Eh bien, ils seront écolos. Alors, terminer les produits chimiques ou les rejets de colorants dans les rivières et de diminution de la quantité d'eau utilisée. Il y a une dizaine d'années, il faut savoir qu'on utilisait 150 litres d'eau pour faire un jeans. Aujourd'hui, ça peut descendre jusqu'à 10 litres à qualité égale. Et surtout, fini le sablage, la projection de sable pour délaver les jeans qui provoquaient des maladies graves chez les ouvriers. Aujourd'hui, c'est une machine qui se charge de ce travail. Explication avec Johan, c'est l'un des créateurs de la machine.
Cette machine, c'est une machine à laser pour faire tous les traitements de la finition des jeans.
On a l'impression que ça brûle. C'est quoi cette fumée?
La fumée, oui. Il sait pour que faire avec le laser, il connaît le fire.
Ah, il brûle l'indigo.
Et il brûle l'indigo.
Voilà, le laser brûle les colorants, c'est tout simple, il suffisait d'y penser. Vous pouvez tout faire, y compris graver votre photo sur votre vieux jean. Problème, si on utilise aujourd'hui cette technique au Maroc, en Tunisie et surtout en Turquie, eh bien au Bangladesh ou en Chine, où sont fabriqués les jeans low cost vendus dans la grande distribution, eh bien on continue d'utiliser des méthodes dangereuses pour la santé. Pour les reconnaître, il y a bien sûr les étiquettes, mais aussi et surtout le prix. Alain Meloul dirige, lui, des usines de jeans en Tunisie.
Alors un jean qui sort du Bangladesh est vendu entre 4 euros et 10-11 euros, une fourchette large. Et chez nous, le marché tunisien, le jean coûte entre 13 euros et 17 euros à peu près.
Enfin, votre jean pourra aussi être issu du recyclage, selon Philippe Friedman, l'un des plus grands experts du secteur.
Des filets de pêche qui sont recyclés pour faire des jeans, ou de la nanotechnologie qui permettra à l'eau de glisser sur son pantalon, ou des produits qui sont beaucoup plus résistants pour faire de la moto, ou même simplement des produits mode qui sont plus fashion et qui ressemblent à des produits genre type costume ou des choses comme ça.
Bon alors voilà, justement, la mode, on y vient, Philippe, il va ressembler à quoi mon jeans?
Eh bien, c'est le retour des trous, mais pas n'importe quel trou. Pascaline Wilhelm est la directrice de Mode Première Vision.
Des jeans qui ont l'avantage d'avoir des déchirures qui ne sont absolument plus les mêmes qu'il y a 10 ans et qui sont au contraire beaucoup plus subtiles et très raffinées et qui jouent sur des monts très cachés qu'on n'avait pas vus encore aujourd'hui. Ah, ben le côté sexy, je monte pas, il y a beaucoup de choses à faire encore.
Un jean, c'est tout sauf sexy.
Ah, ben regardons autour de nous, je crois qu'au contraire, c'est très très sexy.
Mais ça, c'est une des tendances qui agace par-dessus tout François Girbeau, le pionnier du jean délavé en France. Lui, à l'époque, il faisait pas de sablage. Il mettait des jeans, des cailloux dans une machine à laver et ça donnait le résultat et le succès qu'on connaît. Écoutez-le.
Bon, le jean, ça doit être rebelle. La jeune génération, ils ont des looks. Ils ont des looks, mais quand nous, quand on détruisait le jean, c'était pour faire chier Margaret Thatcher, quand Catherine Hamlet est allée, ou Vivian Westwood, c'était des choses comme ça, c'était punk, c'était no future. Mais là, maintenant, on va trop loin. Ce que je vois ici, ce sont tous ces trucs collants, ces espèces de, ils appellent ça des jeggings, quelque part, qui est le truc jogging avec leggings et tout ça, qui a été, c'est bien, c'est fantastique, toutes ces filles-là. Mais moi, être agressé comme ça, parce que quelque part, aujourd'hui, on voit l'intimité des filles, on voit l'entrejambe qui ressort, parce que là, avec du stretch, on ne peut pas faire autrement. Mais ça, pourquoi ils font ça? Parce que, ok, c'est cool, mais ce n'est pas ça qu'on a voulu.
Enfin, le top du top, hein, c'est le délavage personnalisé d'un jean classique foncé. Et le top du top, c'est la trace du téléphone portable sur la poche arrière.
Bon, c'est pas la sûr. Classe, ça.
Je suis pas sûr qu'on opte pour ça. Philippe Lefebvre, de retour de Barcelone, merci beaucoup. Pour finir, Nicolas, quelle est la marque de bière la plus vendue aux États-Unis?
La Bud.
La Bud gagnée, la Budweiser, des millions d'hectolitres engloutis chaque année, des centaines de spots chaque jour sur toutes les télés et radios du pays. Et pour l'instant, ça donne ça.
Bright, crisp, clean, pure. This is Budweiser. This is beer.
Mais à partir de lundi prochain, Nicolas, fini. La marque change de nom et ça donnera à peu près ça.
America.
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 America. Eh oui, Budweiser va désormais s'appeler America, du moins le temps de la campagne présidentielle américaine jusqu'en novembre prochain. Explication du brasseur, cette campagne baptisée l'Amérique est entre vos mains, doit rappeler aux citoyens l'optimisme avec lequel les États-Unis ont été construits. Nous allons, je cite toujours, encourager les consommateurs à célébrer l'Amérique et les valeurs communes de la marque que sont liberté et authenticité. Rien que ça, on verra donc, Nicolas, dans les prochains mois, chez nous, si Cronenbourg ou Canterbury se rebaptiseront France ou Gaulle. À lundi.
À lundi, Michael.